Radio Barc, notre 18e est comme annoncé avec nos deux invités, donc Jean-Hugues Silbermann qui est candidat à la députation sur la deuxième circonscription Narbonne pour le mouvement La France Insoumise et sa suppléante Nadine Sanchez, puisqu'on le sait, dans le système actuel, il y a toujours un candidat et un suppléant ou une suppléante. En deux mots, monsieur Silbermann, vous n'êtes pas nouveau dans la politique, vous avez déjà un parcours, si je puis dire.
Écoutez, bonjour d'abord. Ça dépend ce que vous entendez par politique. Il y a la politique au sens où on l'entend traditionnellement, mais pour moi, la politique, c'est l'implication d'un être humain dans la vie de la société. De ce point de vue, depuis les 10-12 dernières années, j'ai fait de la politique sans en faire, puisque j'étais au bureau de la CCI Narbonne, chargé de, en particulier des finances.
Mais vous avez été élu municipal à la CED, déjà.
Absolument, mais j'insiste sur ce point. Pour moi, faire de la politique, c'est s'intéresser à la vie publique. Une association qui œuvre pour corriger des problèmes de société, les Restos du Cœur, par exemple,
fait de la politique au sens noble.
Fait de la politique au sens très noble du terme.
Oui, bien sûr.
Alors effectivement, j'ai été élu à la mairie de Narbonne. J'ai même largement contribué à la rédaction du programme qui nous a permis, avec une équipe qui à l'époque était assez exceptionnelle, puisque c'était une des toutes premières équipes de ce qu'on a appelé la gauche plurielle, bien avant que ça devienne littérature, et qui nous a permis d'arriver avec un programme très construit à la mairie de Sète, où j'étais adjoint à l'économie, les zones industrielles, le port et l'emploi.
Avec Monsieur Liberty à l'époque.
Avec Monsieur Liberty comme maire, Monsieur Lubrano comme premier adjoint et moi-même comme troisième adjoint. Mmh.
Voilà. Madame Sanchez, vous avez plutôt une expérience du syndicalisme.
Oui, bonjour. Moi, j'ai travaillé à la Poste. J'ai fait ma carrière à la Poste. Je suis rentrée à 20 ans. Et en fait, j'étais déléguée syndicale sur la dernière année, où j'ai, en 2015. Et j'ai travaillé essentiellement en région parisienne et dans l'Hérault. Et j'ai été toujours en contact avec la population, donc, puisque j'ai fait surtout un travail de chef d'établissement et guichetière aussi. Et je me suis rendu compte de l'attachement de la population aux services publics et de l'importance des services publics dans notre société.
Oui, alors c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, la Poste, ce n'est pas le sujet central, mais peut-être qu'il faudrait y consacrer un sujet. Ça viendra. Monsieur Silbermann, donc, vous êtes candidat à la députation, puisque c'est bien ça. Vous vous êtes présenté, d'ailleurs, aux médias très récemment. Donc, vous êtes candidat pour ce qu'on appelle le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise.
Tout c'est, à fait.
Je me trompe pas dans les
Absolument.
Termes, on est bien d'accord. Alors, première chose, le mot la France insoumise qui évoque quand même une notion de rébellion, est-ce que ça vous paraît un programme de gouvernement, ça ?
Absolument. Puisque France insoumise, on peut l'entendre comme insoumise au capital, insoumise aux diktats de l'Europe, insoumise à un système qui broie l'individu, c'est en ce sens qu'on est insoumis. Refuser d'admettre le système tel qu'il est, refuser le « on peut pas faire autrement », qui est le leitmotiv des libéraux. Eh bien si, on peut faire autrement, et c'est la base de notre programme. Et ce programme, on peut tellement le faire autrement qu'il a été écrit avec des contributions par Internet de plus de 3000 personnes. 350 points, bien sûr, des commissions de travail, mais à la base, c'est 3000 personnes qui ont participé à l'écriture de ce programme.
Alors, monsieur Silbermann, vous avez donc une expérience, je disais, de la politique au sens noble, enfin, etc., etc. Vous avez aussi cette particularité que vous avez vous-même géré votre propre entreprise pendant un certain temps.
Oula.
Vous avez été patron, en quelque sorte.
Oula. J'ai créé ma première entreprise alors que je n'étais que mécanicien moto et j'avais 19 ans et c'était en Angleterre. Alors, j'ai pas découvert l'eau chaude hier.
Ouais.
J'ai été professeur, j'ai été aussi salarié dans des garages, dans différentes institutions. Mais c'est vrai que j'ai créé plusieurs entreprises dans ma vie et sur le Narbonnais pendant toutes ces dernières années et encore aujourd'hui dans le domaine du tourisme.
Voilà,
j'ai
eu
plusieurs vies professionnelles.
Ce qui vous donne un regard quand même, je dirais, riche par rapport à quelqu'un qui n'a été que salarié dans sa vie, parce qu'il voit deux aspects d'un problème, en quelque sorte.
Tout à fait. Et encore plus riche par rapport à quelqu'un qui n'a été qu'apparatchik d'un parti.
Oui, bon. Alors maintenant, revenons sur cette France insoumise qui vous semble donc, comme vous le disiez, tout à fait un programme. Alors ce programme de insoumis qui a une connotation négative, passons à un programme, une proposition positive. Grosso modo, pouvez-vous décrire quels sont les axes essentiels de ce programme, Madame Sanchez ?
Mais vous parliez tout à l'heure rébellion. Pour moi, quand on l'entend et quand on voit corruption, évasion fiscale, inégalité, injustice, donc nous sommes partis des préoccupations en fait de notre peuple. Et comme disait Monsieur Santos tout à l'heure, notre chère France, on a envie de la retrouver, de la reconstruire. Donc pour ça, nous avons énormément de mesures qui sont décrites d'ailleurs dans le programme « L'avenir en commun ». Où il est question de l'emploi, de la santé, de l'écologie.
Alors, il faut essayer donc d'être bref, surtout en radio, pour donner quelques axes essentiels qui vont persuader l'auditeur, finalement, puisque vous êtes là pour dire « on se présente, votez pour nous ».
Oui, alors écoutez, on se présente, voter pour un nouveau système juridique constitutionnel français. Le socle du programme de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, c'est la VIe République. Alors il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, vous auriez du mal à trouver un candidat qui n'en parle pas. La seule différence...
Depuis un certain temps, d'ailleurs.
Depuis un certain temps. Quand je dis aujourd'hui, mettons le temps court, 2 ans. La seule différence, c'est que ce programme de la VIe République, ou cette vision des besoins d'une nouvelle VIe République, Jean-Luc Mélenchon l'apporte depuis 2012. Et que tout notre programme est articulé autour de ce changement constitutionnel. D'ailleurs, dans notre campagne, nous avons aujourd'hui, je vous l'informe, 21 réunions publiques programmées. Chaque fois...
Alors malheureusement, pas à Périac de Mer.
Attendez, on n'a pas dit notre dernier mot.
Alors,
on reviendra sur ce point, mais on n'est pas du genre à mettre les pouces quand on nous met une barrière. Au contraire, ça nous surmotive. Non, chaque fois qu'on va faire ces réunions publiques, comme on l'a fait à Bages très récemment, le premier quart d'heure sera expliqué aux citoyens, et je dis bien expliqué, c'est pas pédant, c'est de la pédagogie, au sens, si on veut parler de quelque chose, comprenons d'abord de quoi on parle. Après, on pourra critiquer. On va parler de la VIe République, en passant, bien entendu, par ce qu'est une constitution, parce que qui dit République dit constitution. Donc, on passe un quart d'heure ensemble, avec le public, à expliquer pourquoi la Ve République est née en 1958, quelles sont ses modifications. Il y en a eu 24, mais certaines étaient très importantes, d'autres moins. Le suffrage universel pour désigner le président de la République, c'est une modification de la Constitution, etc. Bien. Ensuite, on explique comment, dans notre programme, on va mettre en œuvre ce changement de système, ce changement de Constitution, et surtout, qui va le faire. Parce que c'est bien beau de dire on va faire une nouvelle Constitution, mais l'actuelle Constitution, qui l'a faite ? L'histoire retiendra le nom de Michel Debré. Michel Debré et quelques barons du gaullisme. D'autres pays ont choisi carrément de faire par des experts que l'on paye. Ou alors ça peut être les grands corps institutionnels, ça peut être les banques, pourquoi pas. Non, nous on veut la faire par le peuple, c'est-à-dire une constituante, des gens qui vont se réunir après un référendum où chaque citoyen en France sera consulté sur est-ce qu'il veut donner sa représentation à un corps politique constitué, syndicat, association, parti politique, ou est-ce qu'au contraire, il veut donner sa voix à des gens tirés au sort ? De la même manière qu'on tire au sort des jurés d'assises, où on va demander à des gens qui n'ont aucune formation juridique, est-ce qu'ils pensent que tel individu, après l'exposé des faits, mérite la prison, et à l'époque, rappelez-vous, la peine capitale. Ça a toujours été dans notre système. Si on peut demander une décision aussi grave à un individu comme vous et moi, pourquoi ne pas nous demander ce qui ne va pas dans la société, ce qu'il faut changer ? Voilà le socle de ce que l'on veut faire.
Donc ça serait véritablement la base et surtout une première phase.
Absolument. Hein ? Mais pendant que la constituante travaille, elle devrait être convoquée dès le mois d'octobre 2017. Mais pendant qu'elle travaille et avec le rythme qu'elle s'impose et en intégrant ce qui remontera de la société civile, bien entendu, la nouvelle Assemblée, elle travaille. La nouvelle Assemblée, elle cherche à mettre en marche le programme qui est l'avenir en commun. Donc il y a des mesures qui vont s'appliquer immédiatement, il y a des corrections qui vont être faites par rapport à l'économie, par rapport à l'écologie. Il y a l'application du programme jusqu'à ce que la constituante rende ses travaux et qu'un nouveau référendum décide de passer une nouvelle constitution. À ce moment-là, toute l'Assemblée, le Sénat démissionne, le président de la République, Jean-Luc Mélenchon, démissionne, et ce sont des nouvelles élections générales.
Alors, pour être élu, on va parler, désolé, monsieur Silberman, un petit peu de politique politicienne, si je puis dire. Pour être élu, il faut une majorité. Une majorité, c'est un rassemblement. Alors, nous avons reçu, il y a quelque temps, un long communiqué de monsieur Jean-Pierre Maestera, militant communiste que vous connaissez bien sur la place de Narbonne, qui vous reproche, en quelque sorte, de ne pas faire tout ce que vous pouvez et tout ce qu'il faudrait pour faire une union. Quelle est votre réponse à ça ?
Écoutez, vous venez de parler de rassemblement. Ben oui, on essaye de
rassemblement
rassembler.
Dans son esprit, de la gauche, bien sûr.
Dans son esprit, mais dans le vôtre, vous avez parlé de rassemblement pour gagner. Ben effectivement, on essaye de faire un rassemblement, mais des citoyens. On essaye de faire un rassemblement qui ne soit pas de la tambouille politique. Alors, la situation propre au PC. Bon, moi d'abord, vous l'avez mentionné tout à l'heure, à titre personnel, et je ne veux pas personnaliser le débat, mais puisque je suis le candidat, je dois quand même un peu parler de mes opinions propres. J'ai participé très largement, comme je vous l'ai dit, pendant 3 ans, ça a été une très longue bataille avec des invalidations d'élections, à l'élection d'une liste d'union de la gauche, dont le maire était François Liberti, qui est une des figures patriarcales bien connues de tout le Languedoc-Roussillon. Je n'ai aucun problème d'ordre idéologique à travailler avec des communistes. Que se passe-t-il aujourd'hui, non pas seulement à Narbonne, mais en France ? Mais tout simplement, vous avez eu 2 votes. Un vote de la direction du Parti communiste français qui a décidé que le candidat aux élections présidentielles serait du PCF, et ce vote a été ensuite désavoué par les militants qui ont préféré choisir Jean-Luc Mélenchon. À partir de là, dans toute la France, chacun s'est positionné au sein de ce grand parti. Vous avez aujourd'hui, dans les candidats de la France insoumise, 19% de nos binômes, candidats suppléants, qui sont avec une participation communiste officielle. Je ne dis pas des gens qui ont appartenu au passé il y a 15 ans.
Militants en quartier actuel.
Absolument, absolument. Ça a été un choix des sections de présenter des candidats dans le cadre de la France soumise et du programme qui le sous-tend, l'avenir en commun. À Narbonne, un autre choix a été fait par le PC. Mais très bien, moi je n'ai pas à m'immiscer dans ce choix ni à porter de jugement. Je respecte profondément la valeur des critères que les gens choisissent. Ce ne sont pas les miens, mais je les respecte. On se trouve donc dans cette situation où vous avez un parti qui, dans son ensemble, soutient un candidat à la présidence de la République qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Ce candidat est porteur d'un programme qui s'appelle l'Avenir en commun. Vous avez des militants qui acceptent la cohérence de dire « je soutiens le président et son parti » et donc la logique stratégique qui va avec élire des députés de la France insoumise. Et d'autres qui disent « ben non, nous on préfère le programme du Parti communiste ». Voilà la situation.
Voilà, eh bien merci pour ces éclaircissements. Alors revenons maintenant sur les choses essentielles, c'est-à-dire quelques axes porteurs, si je puis dire, les murs porteurs du programme.
Moi, je vais bien parler.
Alors, Madame Sanchez, oui.
Voilà, je vais vous parler. Pour nous, il y a une urgence, c'est l'urgence écologique. D'ailleurs, notre originalité, c'est de porter dans la Constitution la règle verte. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Et pourtant, l'écologique semble, politiquement en tout cas, électoralement, en perte de vitesse chez nous.
Eh bien, oui, mais c'est le point de départ et le point d'arrivée de notre programme. Parce que si on ne fait rien, hein, à l'heure actuelle, quand on voit l'état de notre planète et le réchauffement climatique, c'est une certitude, c'est plus une éventualité. Si on ne fait rien, eh bien, on n'aura même plus besoin de se poser de questions, hein, parce qu'on n'existera plus.
Donc la dimension écologique, pour vous, est essentielle à intégrer.
Oui.
Tout à fait, tout à fait. Cette règle verte, je vous le dis parce que c'est extrêmement important, nous allons interdire de prélever sur la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer, ni produire plus que ce qu'elle peut supporter.
Alors c'est une remise en cause complète du système économique.
C'est la base.
Remise en cause,
en tout cas, très importante.
C'est une transition. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est une transition volontariste. Et sans vouloir recouper Nadine, vous avez dit l'écologie est en perte de vitesse. Eh ben voilà,
Électoralement, justement.
Mais on ne se situe pas sur un niveau électoral. On se situe sur l'intérêt commun, l'intérêt général, celui des générations à venir.
Oui. Alors, autres axes importants du programme, Madame Sanchez ?
Eh bien, entre autres, c'est l'urgence sociale aussi. On se rend compte du fort taux de chômage qui existe en France et puis, on peut dire, dans les autres pays européens. Et à ce niveau-là, justement, cette transition écologique sera porteuse d'emplois. Nous tendons d'ici 2050 à aller complètement sur les énergies renouvelables. Donc là, nous comptons à peu près 1,5 million de création d'emplois pour mettre en place cette transition écologique, ces énergies renouvelables. Ensuite, nous voulons favoriser l'installation des petites exploitations agricoles pour justement une meilleure production et une meilleure qualité de production.
Ce qui va à l'encontre du développement des 30 ou 40 dernières années.
Mais vous regardez le résultat du développement des 30 ou 40 dernières années. Vous avez des disparitions de fermes, vous avez des paysans qui se suicident, vous avez des produits alimentaires qui sont d'une qualité complètement dégradée. On a dit mille fois, je ne suis pas spécialiste, mais je suppose que c'est vrai, que pour avoir les vitamines qu'on avait dans une pomme après la guerre, il faut en manger 100 aujourd'hui. Non mais voilà le résultat de la productive, de la politique productiviste dans l'agriculture.
Nadine Sanchez, vous parliez à l'instant donc du chômage. Ça c'est pareil, ça remonte à des années, des années. On n'a jamais réussi à le juguler de façon durable. Est-ce que vous êtes, vous, par exemple, comme Monsieur Hamon, pour le revenu universel ?
Non. Non, ce n'est pas...
Est-ce que ça vous semble sérieux comme progrès ?
Non, je pense qu'il y a d'autres perspectives pour quand on est en recherche d'emploi. Pour moi, ce n'est pas une solution de vie, non.
Nadine, si tu permets. Oui. Moi, je serais plus radical encore que Nadine. Elle fait un constat basé sur sa vie professionnelle. Moi, je pense qu'on a là une espèce d'OPA sur les jeunes. Ce qui s'est passé avec le revenu universel, qui a centralisé tous les débats de la gauche et de, soi-disant, la gauche, mais moi je dirais le PS et ses alliés, pour faire très simple. Pourquoi ? Je vois rien de progressiste du tout, absolument du tout, à considérer que l'emploi va disparaître, on va vous donner une subvention à vie, surtout quand elle est répartie, quel que soit le niveau de salaire. On a suffisamment gossé sur, je vois bien M. Pinault ou Mme Bettencourt recevoir le revenu universel. Mais ça, c'est de l'anecdote. Si on veut rester sérieux, à mon sens, ça va accélérer la dégradation de l'échelle salariale. Parce que toutes les grandes entreprises vont considérer que puisqu'il y a déjà une base de 600 euros qui est payée par la collectivité, pourquoi se casser le tronc à essayer de faire une progression des salaires ? Moi, je trouve beaucoup plus progressiste notre proposition, qui est de dire que dans toute entreprise, et on va le légaliser, c'est-à-dire en faire une loi, l'échelle salariale ne doit pas dépasser de 1 à 20.
C'est-à-dire l'écart salarial, vous
voulez dire. L'écart salarial, l'échelle salariale dans une même entreprise. C'est-à-dire que si le patron d'une entreprise florissante, et tant mieux qu'elle soit florissante, veut augmenter son salaire, eh bien à ce moment-là, qu'il commence par augmenter les plus bas revenus, que l'on tire toute l'échelle vers le haut. Voilà, vous me parlez de progrès social par rapport à l'emploi, ça c'est la réalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'échelle salariale en France ? 80% des gens touchent le SMIC quand ils touchent quelque chose.
Oui, et puis on a à côté de ça des patrons qui empochent des millions de façon...
Et on pourrait parler des dividendes, si vous en avez le temps. On pourrait parler des dividendes.
Notre programme aussi prévoit la retraite à 60 ans. Ça aussi, c'est créateur d'emplois. Place aux jeunes.
Oui. Alors à propos des jeunes, vous disiez, Monsieur Silbermann, que pour vous, c'est une OPA, je crois,
bien
sur
sûr.
Les jeunes. Mais vous voulez dire par là que c'est... Alors c'est purement démagogique, ou c'est pas finançable, ou c'est une vue de l'esprit ? Pouvez-vous préciser un peu ce que vous pensez là-dessus ?
D'abord et avant tout, je pense que c'est une OPA et c'est purement électoraliste que ça vienne à ce moment-là, dans un débat clivant au sein du PS qui est en pleine décomposition. Je reprends les mots de Michel Stantot à propos de la fuite d'une ancienne secrétaire. J'aimerais pouvoir intervenir sur ce sujet, puisque... Quand on parle de la fuite, de deux choses l'une, ou c'est une fuite idéologique et elle vient de découvrir que finalement elle est de droite et pas de gauche, donc pendant des années elle était intellectuellement de droite mais elle travaillait dans un parti de gauche, ou alors c'est purement opportuniste. Alors pour en revenir je vous disais donc ça parce qu'effectivement le revenu universel c'est venu comme un thème clivant par rapport aux jeunes pour attirer une masse de jeunes qui sont en déshérence par rapport à l'avenir. Moi je trouve beaucoup plus intéressant de dire comme le fait Jean-Luc Mélenchon que vouloir faire un bac pro avec la complexité des métiers aujourd'hui et des techniques en 2 ans, c'est de la rigolade. Il faut 3 ans et il faut financer les jeunes et les familles pour qu'ils puissent avoir un bon niveau d'études. Je trouve beaucoup plus intéressant de dire que par rapport aux jeunes... Il faudra les inscrire en priorité dans toutes les nouvelles filières et donc préparer ces nouveaux métiers que la transition écologique va passer. L'agriculture, vous avez plein de jeunes qui veulent s'installer. On était à une réunion il y a 6 ans, il y a 2 semaines ou 3 semaines, je ne me rappelle plus. Vous n'imaginez pas le nombre de jeunes qui veulent passer, jeunes, mettons jusqu'à 30 ans, entre 18 et 30 ans, qui voudraient bien devenir agriculteurs. Mais il y a une telle pression sur le foncier, il y a de tels prix du terrain, il n'y a rien qui est fait pour faciliter l'installation des jeunes au sens propre du terme. Là, il y a des gisements d'emploi.
Voilà. Et finalement, là, vous êtes beaucoup plus dans une logique de revenu professionnel que de revenu universel.
Mais est-ce que le progrès humain, c'est de salarier à vie quelqu'un pour ne rien faire ? Eh bien, est-ce que le travail, la conscience professionnelle, le lien social, le fait d'être avec des collègues, le fait d'être en contact avec la population, le fait de développer son savoir, le fait d'apprendre, est-ce que c'est pas du progrès social? Est-ce qu'on veut faire de nous une nation de esclaves du travail payé avec un revenu fixe? Attendez, il y a quelques années, il y a des pays qui ont essayé de faire ça. Vous vous rappelez comment ça s'appelait?
Effectivement. Bon, eh bien, c'est sur cette question que nous allons conclure. Merci Nadine Sanchez, merci Jean-Hugues Silberman.
Merci à vous et à vos auditeurs.
Voilà, et d'être venu nous parler donc de votre candidature. Alors, on vous retrouvera, bien entendu, puisque vous êtes en campagne. Vous n'entrez pas, vous y êtes, je crois.
Vous nous permettez d'annoncer quelques dates?
Oui, alors rapidement. Oui, mais on les annoncera de nouveau à mesure
Cette radio. La toute prochaine, c'est le 23 février à Montredon des Corbières. Puis nous avons Portel des Corbières le 25, Bizané le 2 mars, La Palme le 3 mars. Etc.
Voilà, c'est un bel exemple de l'action sur le terrain que vous êtes en train de mener. Merci à vous deux. La semaine prochaine, nous resterons dans la politique et nous allons l'être encore pendant pas mal de temps. Et nous recevrons un de ces socialistes qui reste pour le moment, semble-t-il, Monsieur Olivier Lapeyre, qui lui est l'actuel secrétaire de la section du Parti socialiste Narbonnais. Merci et à la semaine prochaine.